C'est une affaire d'une abjection rare, une affaire méconnue qui devait être jugée en ce mois de janvier 2026 par la Cour criminelle départementale à Paris. Cette affaire révèle également les limites, les failles de notre système pénal. Alors tout commence en mars 2018, nous sommes en Guadeloupe. Lilvina est une femme de 93 ans, vulnérable, qui habite seule. Son mari est mort 35 ans plus tôt. Et un soir, alors qu'elle vient de recevoir la visite de sa fille, elle s'apprête à se coucher, elle est en chemise de nuit, elle va une dernière fois sur son pot de chambre avec précaution, elle a son âge, je l'ai dit, elle est fragile. Et au moment où elle s'apprête à se coucher, il y a un homme qui surgit de derrière son lit, l'attrape, la jette sur son lit, lui écarte les jambes, lui arrache sa culotte et la viole. Et puis cet homme prend ensuite la fuite par le jardin. Alors la victime évidemment est extrêmement choquée, elle explique aux enquêteurs de la gendarmerie qu'elle n'a pas, malheureusement pas pu reconnaître son violeur puisqu'il avait caché son visage derrière un t-shirt, que par ailleurs elle n'a pas prononcé le moindre mot, mais elle va donner un détail très intéressant aux enquêteurs, elle va expliquer qu'elle croit reconnaître dans la démarche de son violeur la démarche du fils d'un voisin, un voisin qui est marin-pêcheur, qui a un fils de 19 ans qui s'appelle Jean-François A, et qu'elle voit régulièrement passer devant chez elle. Alors évidemment, ce n'est qu'une intuition, ce n'est pas encore une piste, mais c'est le début de quelque chose, et très étonnamment, eh bien, les enquêteurs de la gendarmerie ne vont pas se saisir de cette piste, d'ailleurs ils ne vont même pas réaliser d'enquête de voisinage, ce qui est pourtant le béaba dans ce genre d'affaires. Les enquêteurs vont se contenter en fait de faire la procédure habituelle, ils vont regarder dans les fichiers des délinquants sexuels, ils vont prélever de l'ADN sur la scène de crime, mais là encore, ils vont bâcler leur travail, puisque par exemple, eh bien, ils vont seulement analyser les échantillons prélevés sur les parties génitales de la victime, sur lesquelles ils ne vont pas trouver d'ADN malheureusement, mais ils ne vont pas analyser les autres échantillons, alors qu'on sait que le violeur n'avait par exemple pas mis de gants et donc qu'a priori il a laissé de l'ADN un peu partout, notamment sur les vêtements de la victime. Résultat, l'enquête s'enlise et cette négligence va avoir de très très lourdes conséquences puisque à cause de cela, eh bien, le voleur présumé, le fameux fils du voisin, part de Guadeloupe pour se rendre en métropole et recommencer. Quelques mois plus tard, en août 2018, nous sommes à Paris, la police est avertie qu'il y a un cambriolage en cours, elle se rend sur place et là, elle tombe sur le cambrioleur, le fameux Jean-François A, à califourchon sur la victime, une femme d'une soixantaine d'années qui n'a même pas eu le temps de sortir de son lit. Jean-François A est en slip et on peut penser a priori qu'il va passer à l'acte en la violant ou en agressant sexuellement la victime qui est sous lui. Mais contre toute attente, il est interpellé et il n'est pas jugé pour tentative d'agression sexuelle ou de viol, mais seulement pour vol avec violence et une peine de 12 mois de prison qu'il va effectuer partiellement puisqu'il y a bien sûr le jeu des remises de peine. Alors la victime sur le moment va vivre ça de manière extrêmement pénible. On a pu la recontacter, elle nous a raconté qu'elle en a énormément voulu à la justice, qu'elle avait l'impression que c'était elle la coupable dans l'histoire et qu'elle était persuadée que cet homme allait récidiver, puisque pour elle, c'était un nouveau Guy Georges. Et elle a raison, puisque après sa peine de prison, Jean-François A ressort, et quelques années plus tard, nous sommes en 2020, toujours à Paris, eh bien, il est interpellé cette fois-ci pour un viol présumé sur une SDF en pleine rue. Il est aperçu en train de la tabasser, puis de se glisser sous sa couverture et d'effectuer des va-et-vient avec son bassin. La victime SDF va être entendue par la police, elle est totalement défigurée par les coups que lui a infligés son agresseur et elle explique avoir été violée par tous les orifices. Malheureusement, il s'agit d'une SDF ukrainienne, une marginale, elle disparaît dans la nature sans laisser de traces et donc son témoignage ne pourra pas aller plus loin auprès des services de police. Jean-François A, de son côté, nie les faits et résultat, il n'est pas condamné pour viol, mais seulement pour agression sexuelle et il s'en tire avec 30 mois de prison. Alors c'est à peu près au même moment, on est en 2020-2021, qu'une enquêtrice de la police judiciaire parisienne va s'interroger, heureusement, sur le passé de Jean-François A et se demander si finalement en Guadeloupe, sur son île d'origine, eh bien, il n'aurait pas commis des faits similaires. Et donc cette enquêtrice va par la suite contacter la famille de Lilvina en lui faisant part de ses soupçons. Et c'est ainsi que, à force de persévérance, la famille de Lilvina va réussir à relancer l'enquête. Les gendarmes acceptent de rouvrir le dossier. La famille rappelle qu'un suspect avait été plus ou moins identifié par la victime et en analysant finalement les échantillons ADN qui n'avaient pas été analysés à l'époque, les gendarmes retrouvent un ADN compatible avec celui de Jean-François A. L'affaire est donc sur le point d'être résolue, mais que de temps passé, on est quand même 5 ans après les faits. Ce n'est finalement qu'en 2023 que Jean-François A. est interpellé pour le viol de Lilvina en Guadeloupe. Face aux policiers, eh bien, il va reconnaître avoir eu un rapport sexuel avec Lilvina, et là il va faire des déclarations assez absurdes. Il va expliquer que cette dame âgée était consentante, que c'était un rapport consenti et que ce n'était pas un viol. Alors évidemment, cette version des faits paraît totalement ubuesque, d'abord parce que la victime a indiqué qu'il s'était caché le visage, qu'il n'avait pas prononcé le moindre mot expressément pour ne pas être reconnu, mais surtout parce que la victime avait indiqué aux enquêteurs à l'époque qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel depuis 50 ans et qu'a priori, vu son âge, elle n'allait pas être tout à fait intéressée par avoir des rapports sexuels avec cet inconnu. Jean-François A. devait donc être jugé devant une cour criminelle en ce mois de janvier 2026. Avant de vous raconter cette audience, d'abord, expliquer qui est Jean-François A., cet homme au fait assez monstrueux. Eh bien, c'est un homme qui a donc grandi en Guadeloupe. Il est très tôt tombé dans des addictions. À 9 ans, il goûte son premier verre d'alcool et à 12 ans, il devient alcoolique. Par la suite, il tombe dans le crack et le cannabis, notamment en fréquentant la tristement célèbre Porte de la Chapelle à Paris. Et puis, il est également accusé par des membres de sa fratrie de viol quand ils étaient enfants. On sait qu'aussi, il est attiré par tout le monde, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les transsexuels, les personnes âgées. Et au moment d'ailleurs où il est interpellé en 2023, il est en couple avec une femme transsexuelle colombienne qui a 38 ans de plus que lui. Autre élément très inquiétant sur son profil, c'est la santé mentale de Jean-François A. Très tôt, il a été diagnostiqué schizophrène avec des tendances suicidaires, mais pour autant, comme dans toute enquête criminelle, eh bien, les experts psychiatres qui se sont penchés sur son profil ont conclu qu'il était conscient au moment des faits, qu'il n'était absolument pas fou, et donc qu'il était responsable pénalement. C'est la raison pour laquelle il devait donc être jugé en janvier 2026. La victime, qui est aujourd'hui âgée de 101 ans, n'a pas pu faire le déplacement, elle est trop âgée. Il faut bien comprendre qu'on est 8 ans après les faits et que c'est pour elle, a priori, la dernière occasion de voir son violeur présumé condamné par la justice. Mais contre toute attente, les juges ont décidé de reporter le procès qui aura donc lieu a priori dans 1, 2 ou 3 ans, alors que la victime ne sera peut-être plus de ce monde. Alors comment c'est possible? Eh bien, le jour du procès, ce procès devait se tenir sur 2 jours. Eh bien, au début du deuxième jour du procès, la défense, les avocats de Jean-François A. ont fait savoir que sa santé mentale n'était pas compatible avec la tenue de ce procès. Alors évidemment, cette demande a fait bondir l'avocate de la partie civile, maître Cathy Richard, qui expliquait que c'était de la simulation de sa part, parce qu'effectivement, on voyait l'accusé extrêmement nerveux, en train de secouer la tête. Elle a expliqué que c'était probablement un effet de décompensation, c'est-à-dire que l'accusé était mis en face de toutes les horreurs qu'il avait faites, et donc que ça générait chez lui de l'anxiété et des troubles, mais que pour autant, il fallait poursuivre cette audience, qu'il fallait aller au bout de ce procès pour permettre à la victime de se reconstruire avec son âge très avancé que l'on sait. L'avocate générale a dit la même chose, le ministère public a demandé la tenue de ce procès, mais les juges, eh bien, ont décidé, par principe de précaution, de se remettre à l'avis d'un expert qui s'est donc rendu sur place, qui s'est entretenu pendant 1 heure avec Jean-François A. et qui, au bout de ces 1 heure, a expliqué dans un rapport très détaillé, eh bien, que probablement que Jean-François A. simulait, mais qu'il ne pouvait pas, en tant qu'expert, en être certain, et donc qu'il estimait qu'on pouvait effectivement reporter l'audience et la tenue de ce procès. Les juges ont décidé de suivre l'avis de cet expert et l'audience a donc été reportée. Évidemment, ça a suscité beaucoup d'amertume pour la famille de la victime. 3 petites filles de la victime avaient d'ailleurs fait le déplacement pour voir le violeur présumé de leur grand-mère condamné. L'une d'elles était même venue expressément de Guadeloupe. Une des 3 nous a également raconté qu'elle était dans l'institution policière au moment des faits et qu'elle avait été tellement dégoûtée par le traitement qu'avait été fait de la parole de sa grand-mère, par l'enquête qui avait été bâclée, qu'elle avait décidé de démissionner à l'époque. Elles nous ont également raconté qu'elles n'avaient jamais dit à leur grand-mère que son violeur présumé avait récidivé par les suites et qu'elle ne lui dirait pas de la même manière, et bien que le procès avait été renvoyé finalement et que donc cette audience n'avait pas eu lieu parce que leur grand-mère ne le supporterait pas. Écoutez-les.
Moi je suis déçue, mais c'est pas que pour nous en fait, c'est surtout pour toutes les autres victimes en fait de viol. Ça pouvait être notre fille, notre cousine, et ça veut dire que les gens ils peuvent faire n'importe quoi et sous prétexte de folie. on ne peut pas juger des actes antérieurs parce que maintenant, on estime qu'ils sont pas, condamnés. Enfin, qu'on peut pas les, ils sont pas aptes. Alors qu'au temps T, ils étaient peut-être conscients et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient.
Alors cette affaire, évidemment, elle pose plusieurs questions. Il y a d'abord les failles de l'enquête, il y a la lenteur de la justice, cette impression qu'on peut avoir que la justice est plus au service des mises en cause qu'au service des victimes et de la société, alors qu'elle est censée rendre justice au nom du peuple français. Mais il y a encore une autre question qu'elle soulève, c'est la question des viols sur les personnes âgées qu'on voit régulièrement dans la presse. On voit régulièrement des affaires apparaître autour de viols de personnes âgées et donc extrêmement vulnérables. Et c'est d'ailleurs ce que constate Maître Cathy Richard, l'avocat de la partie civile dans cette affaire, qui a bien voulu nous donner une interview et qui nous explique qu'elle a de plus en plus de victimes qui se présentent à elle, qui sont des personnes âgées et qui sont victimes de viols chez elle. Écoutez-la.
Et c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, mon exercice professionnel me conduit à défendre de plus en plus de femmes âgées victimes de viol. Une petite fille n'a pas encore conscience qu'elle peut être victime, mais on essaie de lui expliquer qu'il faut qu'elle fasse quand même attention. Une jeune fille, elle va savoir qu'elle est, elle risque d'être agressée sexuellement, mais c'est vrai qu'une femme autour de 50 ans, il y a un âge où les femmes pensent ne plus être des victimes privilégiées. Et en réalité, je m'aperçois aujourd'hui que leur particulière vulnérabilité en font quand même, pour un certain type d'agresseurs, des victimes privilégiées. Ce sont des jeunes plutôt marginaux qui n'ont pas de fonction sociale, qui n'ont pas de travail, qui sont parfois en situation irrégulière sur le territoire national, qui n'ont pas de source de revenus particulière, qui sont souvent sous l'empire de la drogue. Et en fait, ils agressent ces femmes souvent chez elles, parfois aussi dans des hôpitaux, là où ils peuvent trouver ces femmes seules et particulièrement vulnérables.